Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, le djihad mondial qui se développe dans les pays du Sud.
Et oui, avec cette réunion d'urgence aujourd'hui des partis politiques et religieux autour du président du Sri Lanka, 4 jours après les attentats revendiqués par l'État islamique, autour de 360 personnes tuées, le bilan évolue. La plus importante attaque commise en tout cas hors du califat irako-syrien pour l'État islamique, dans l'océan Indien et dans une zone sud-asiatique déjà sous pression, plus largement peut-être des États du Sud moins bien préparés. On voit ça avec vous, Wassim Nasr, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone, vous êtes journaliste à France 24, auteur d'État islamique, le fait accompli. D'abord les nouvelles du Sri Lanka, donc ces 6 attentats suicides simultanés dimanche dernier, 3 hôtels, 3 églises. Dès le dimanche, l'attentat avait été attribué par les autorités à un groupe local, le National Tawhid Jamaat. Et puis finalement, c'est l'État islamique qui a revendiqué les crimes par une vidéo de son agence officielle. Le fait que cette revendication vienne 2 jours après, est-ce que c'est surprenant pour un acte d'une telle ampleur?
Non, c'est pas vraiment surprenant parce que ça dépend à chaque fois des... On est dans la norme, j'ai envie de dire. Ça dépend des lieux, des circonstances et 2 jours, c'est pas très long. Parfois, c'était plus long à d'autres occasions et parfois moins long. Et le fait, comme vous l'avez dit, que l'État syrien avait accusé en premier lieu cette organisation islamique est aussi, j'ai envie de dire, normal. Parce qu'on peut faire un petit parallèle avec des attentats qui ont eu lieu à Jakarta, où effectivement l'État islamique avait recruté dans un parti islamique préexistant, donc il avait attiré des gens d'un parti préexistant dans son giron pour commettre des attentats en son nom. Et d'ailleurs, le parti en question au Sri Lanka a dénoncé les attentats, a regretté les attentats et a fait un communiqué. Donc vous voyez, on rentre dans la complexité des choses où des États comme celui du Sri Lanka n'étaient pas prêts à admettre ou à voir en tout cas que l'État islamique était déjà sur les lieux, parce que des attentats comme ça, ça s'improvise pas du tout.
Alors justement, vous venez de citer ce contexte, un attentat de Jakarta en Indonésie 2016-2017. Il y a également le groupe Abu Sayyaf qui est toujours très actif aux Philippines, attentat dans la cathédrale de Jolo dernièrement en janvier. Est-ce que ça veut dire que le Sri Lanka, de ce point de vue-là, est une sorte de point chaud ignoré? Parce que si on parle du contingent État islamique sri lankais, ce sont 32 à 37 personnes seulement, on pourrait dire, qui ont été déclarées par les autorités. Il y a donc un risque qu'il passe inaperçu, le risque au Sri Lanka.
Oui, c'est vrai, c'est 32 personnes qui sont parties depuis le Sri Lanka, et là, il faut, pour être plus précis, il faut rappeler que on parle des musulmans, donc ils sont tamouls, donc c'est la minorité dans la minorité, parce que les tamouls sont déjà minoritaires au Sri Lanka. Et donc il y a eu effectivement ce nombre de départs, mais comme tous les autres pays d'Asie du Sud ou d'Asie du Sud-Est, il y avait beaucoup de main d'œuvre présente déjà au Moyen-Orient avant la déclaration du califat ou des islamiques en Irak, en Levant, donc qui revient à 2013. Et quand il y a eu cette déclaration, il y a beaucoup de main d'œuvre, donc de travailleurs qui étaient présents en Turquie, au Liban, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Koweït, etc., qui ont décidé de rejoindre le califat. Donc ces gens-là, quand ils ont décidé de quitter le califat, donc 2014, 2015, pour une raison ou pour une autre, eh ben, ils sont quasi indétectables par les autorités, parce qu'ils sont revenus en premier lieu dans les pays où ils travaillaient avant de rentrer chez eux. Donc ça pose le problème d'une autre manière. Maintenant, pour le Sri Lanka, les nombres restent réduits, mais si on regarde des pays comme l'Indonésie, comme le Pakistan, là on passe à des chiffres assez importants, avec des familles entières et qui dépassent de loin les chiffres qu'on a ici en Occident. Donc le problème se pose vraiment d'une autre manière, où les autorités sont obligées de gérer ce problème avec beaucoup de tact et de délicatesse, j'ai envie de dire, parce que ça concerne beaucoup, beaucoup de gens.
On pourrait dire une masse critique importante. Effectivement, on parlait de centaines de personnes, par exemple, pour l'Indonésie. Pour le Sri Lanka, autre signe peut-être inquiétant, c'est cette défaillance qui a été reconnue par les autorités hier. C'est le vice-ministre de la Défense qui disait qu'il y a clairement eu une défaillance de la communication du renseignement, parce qu'il y a plusieurs organisations qui avaient alerté depuis 2016 sur la création de ce groupe, National Tawhid Jamaat. Il y a eu plusieurs affaires aussi, indications, saisies d'explosifs en janvier et note d'information le 15 avril sur un risque d'attentat. Est-ce que c'est pas le signe le plus inquiétant pour ces attentats au Sri Lanka? Impréparation ou négligence? Comment vous l'estimez, vous?
Bah écoutez, ça peut être les deux, et ça peut être aussi que c'était inattendu. Parce que comme dans tous les pays qui ont connu l'activité de l'État islamique, au début, il y a la sidération des autorités qui découvrent que l'État islamique était présent chez eux, hein, à travers une insurrection ou à travers une guérilla ou à travers des attentats. Et puis là, ils regardent ce qu'ils avaient comme information, et c'est facile, j'ai envie de dire, après coup, de dire « ah oui, on aurait pu ». Mais un pays comme le Sri Lanka, quand vous parlez de saisie d'explosifs, c'est un pays qui sort d'une guerre civile. Donc les saisies d'explosifs, c'est pas comme si on avait une saisie d'explosifs à Paris. Vous voyez, donc c'est aussi à remettre dans son contexte. Et aussi le fait que il y a beaucoup de groupes ou qui sont manifestés derrière en disant on savait, on vous avait prévenu. Ça aussi c'est facile, j'ai envie de dire, parce que dans ce jeu de la guerre contre le terrorisme, même si j'aime pas du tout le terme, les autorités doivent juguler entre des gens qui leur donnent des vraies infos et des gens qui dénoncent pour d'autres raisons. Et quand un pays comme le Sri Lanka a été épargné jusqu'à l'heure, et les autorités doivent aussi être très précises dans qu'est-ce qu'elles prennent au sérieux et qu'est-ce qu'elles prennent pas au sérieux, au risque de susciter vraiment des velléités, vous voyez. Donc ils sont obligés de ménager d'une certaine manière la situation, parce qu'il faut rappeler quand même que la personne qui a mené l'allégeance et qui était au moins le logisticien de ces attaques, donc c'est un fameux prêcheur qui avait pignon sur rue, qui était actif sur les réseaux sociaux, qui avait des pages Facebook, des pages YouTube, et qui ne cachait pas du tout son animosité vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des pays occidentaux, etc., ouais, etc. Donc il était détecté, mais le passage à la violence, c'est ça qui n'a pas été détecté. Et c'est ça, ce calibrage, vous voyez, que beaucoup de pays ont du mal à gérer, surtout quand ils ont une communauté musulmane qui n'estime pas radicalisée. Ouais. Ils ont peur de qu'elle ne se radicalise par ou à cause de la pression policière, de la pression militaire. Vous voyez, donc c'est vraiment toujours un calibrage assez délicat à faire.
Oui, il ne faut pas trop tirer sur l'élastique, disons-le voilà, comme ça. Autre terrain, justement, qui inquiète beaucoup aujourd'hui dans un contexte totalement différent, c'est l'Est de la RDC, puisqu'il y a eu une première, donc République démocratique du Congo, hein, on saute en Afrique centrale, une première attaque revendiquée par l'État islamique dans la nuit du 11 au 12 avril sur une petite localité dans l'Est, avec un groupe qui, lui, est très connu hein, depuis plusieurs années, pas forcément pour ses liens avec l'État islamique. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Il y a plusieurs hypothèses.
Effectivement, donc là on parle du groupe, c'est l'Alliance des Forces démocratiques, donc un groupe sanguinaire qui met à feu et à sang le Nord Kivu depuis un moment. Mais là aussi il y a eu des signes annonciateurs. Donc dès 2017, il y a eu une vidéo où on voyait des combattants se dire soldats du califat, etc., etc. Donc ça n'était pas entériné par l'État islamique, j'ai envie de dire, jusqu'à août 2018. Et c'est passé inaperçu, parce que dans le dernier discours de Baghdadi, donc le calife, le chef de l'État islamique, qui date du 22 août, il avait cité l'Afrique de l'Ouest, donc sa filiale autour du lac Tchad, et l'Afrique centrale. Mais c'est passé inaperçu. Jusqu'à ces deux revendications, en fait, de deux attaques qui ont eu lieu dernièrement, comme vous l'avez dit, où ils annoncent cette présence. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, aux observateurs, qui disent, tiens, ils sont en train de perdre Raqqa et de perdre Mossoul, donc ils commencent à s'inventer des fronts. Mais en fait, avant d'arriver à ce stade-là, ça aussi, ça se prépare. Donc avant de pouvoir revendiquer une action en leur nom dans cette région du monde, c'est qu'en amont, il y a eu des préparatifs. Et du moins, les préparatifs connus pour les observateurs, c'est ce que je vous ai dit. 2017, une tentative de rapprochement. Puis 2018, Baghdadi lui-même qui entérine l'existence de cette filiale. Et il y a eu le même procédé avec Boko Haram, vous voyez. Donc Boko Haram, Chicago, a voulu se rapprocher de Baghdadi. Il lui avait envoyé des émissaires. J'avais suivi ça de très près, parce que j'avais une personne qui était entre deux, qui me racontait un peu comment ça se passait. Puis Baghdadi a accepté l'allégeance après une sorte de cahier de charge, jusqu'au moment où Baghdadi a viré Chicago, le considérant très extrémiste. Il l'a remplacé avec Barnaoui, qui est était le fils du fondateur de Boko Haram historique, avant de virer ce dernier dernièrement et de placer un autre. Donc ceux qui disaient que oui, effectivement, le lien organisationnel, ce n'est qu'une marque que Boko, une partie de Boko Haram a repris, se trompent aussi, parce que Baghdadi a démontré jusqu'à encore un mois qu'il pouvait encore destituer et remplacer. Voyez.
Donc pas forcément de branding a posteriori, mais effectivement un lien opérationnel. Bah écoutez, on aura en reparler de ces terrains africains ainsi que du harcèlement des autorités qui continuent en Afghanistan, Arabie Saoudite. Mais merci ce matin pour vos explications. Merci beaucoup Wassim Nasr, journaliste à France 24 et auteur d'Islamique, le fait accompli.